On retrouve là tout de suite Philippe Ponge de l'Assemblée locale pour Montrouge. Alors cette interview est réalisée dans le cadre de notre petite série sur la démocratie locale, élection municipale de 2020. Après Saint-Gobain et Toulouse, nous partons en région parisienne à Montrouge avec Philippe Ponge. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment vas-tu? Quel temps fait-il à Montrouge aujourd'hui?
Ah, il fait gris, bon, c'est Paris, quoi.
C'est Paris, oui. Enfin, ici, en Sarthe, c'est pas mieux, c'est du grès. On disait tout à l'heure, c'était un temps breton dans le coin, donc voilà, donc on est tous un petit peu à la même enseigne. Alors moi, si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour nous parler de cette démocratie participative, démocratie locale, de ce qui se passe à Montrouge dans le cadre des élections municipales de 2020. Tout d'abord, peut-être situer Montrouge, où est-ce que c'est par rapport à Paris?
Alors c'est Porte d'Orléans en fait, c'est à deux pas, ça touche Paris, c'est limitrophe, et ça fait 2 km², hein, donc c'est 1 km dans un sens, 1 km dans largeur, et puis voilà, on a fait le tour, quoi.
Voilà, c'est tout petit en surface, mais il y a combien d'habitants quand même sur cette petite surface,
hein? Alors c'est la 5e ville, voire la 4e ville la plus dense de France, hein.
Donc, j'imagine bien, ouais.
50 000 habitants, ouais, on a 50 000 habitants, ouais.
Sur 2 km².
Exactement, ouais.
D'accord.
C'est énorme, hein.
C'est énorme, ouais. Oui. Alors je suppose, ouais. Si on est Porte d'Orléans, on doit avoir au nord de Montrouge le fameux périphérique.
Exact.
Et qu'est-ce qu'on trouve sinon sur Montrouge?
Alors, en limitrophe, vous voulez dire, tu veux dire, on va tutoyer, ouais, tu veux dire en limitrophe?
En limitrophe ou sur Montrouge, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il y a des bâtiments, des choses particulières qu'on ne trouve pas ailleurs?
Oui, il y a quelques petits monuments un petit peu typiques. Il y a le Beffroi qui est un clocher au-dessus d'une salle de spectacle, on va dire. La mairie est assez jolie. Il y a pas mal de cafés. C'est une ancienne ville d'ouvriers. Hein. Maintenant, elle s'est énormément victime de la gentrification, c'est-à-dire de déplacement de gens qui ont de l'argent qui viennent ici. Sinon, on y trouve un café culturel et solidaire que j'ai créé d'ailleurs avec d'autres, mais que j'ai initié. Donc ça, c'est original, c'est sympathique, c'est un café associatif. Hein. On y trouve quoi d'autre? Pas beaucoup de choses, pas peu de choses pour le touriste en fait. Hein.
C'est plutôt tourné vers la vie des habitants, j'imagine, alors pour le coup.
Oui, c'est une limite résidentielle, mais il y a quand même pas mal de commerce. Hein. C'est une ville avec une avenue très commerçante, pas beaucoup de nature. Les quelques arbres qu'on avait sont petit à petit coupés par la mairie pour diverses raisons.
Comme dans beaucoup de villes en France, oui.
Ouais, c'est catastrophique. On a essayé de se battre aussi là-dessus, mais voilà. Sinon, c'est calme. Les gens aiment bien parce que c'est tranquille et on n'a pas la vie sur les trottoirs de Paris. Donc, quand on sort, on peut prendre des petites rues et même l'avenue de la République qui est la plus importante, qui n'est pas non plus ça ne déborde pas de monde, quoi.
Et sur Montrouge, c'est pas l'endroit aussi. Il y a des forts. Des anciens forts de Vauban qui ont servi pendant la guerre de 1870, par exemple, qui ont été réhabilités?
Alors, il y a un fort, mais c'est sur Bagneux, mais c'est très, très limitrophe de Montrouge. Hein. D'autres forts, je ne vois pas.
Non.
Non, non.
Alors, revenons un petit peu sur ce projet de collectif citoyen sur Montrouge qui s'appelle l'Assemblée locale pour Montrouge, pour le coup. Pourquoi avoir créé un collectif citoyen? Pourquoi vouloir en faire un sur Montrouge?
Alors, c'est l'Assemblée locale permanente. On a mis ce mot-là pour effectivement bien délimiter le fait que c'est pas seulement pour les élections. Hein. Il y a des gens qui viennent dans l'Assemblée qui n'ont pas envie du tout de parler d'élections. Et que cette Assemblée a vocation, avant et après l'élection de 2020, de continuer et d'être une force de proposition, de délibération, de décision, si jamais effectivement on avait des capacités de décider, pour faire pression sur des choses comme des arbres qui tombent, comme sur des stationnements qui sont, on est la ville la plus chère des Hauts-de-Seine, voire beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est permanent dans ce sens-là. Ensuite, pourquoi? Pardon, oui.
Oui, donc permanent dans le sens où vous avez déjà commencé donc des actions municipales. C'est pas, comme tu dis, c'est pas forcément par rapport à 2020, mais c'est aujourd'hui et maintenant. Quel genre d'action tu parlais pour les arbres, le stationnement? C'est des choses sur lesquelles vous travaillez déjà en ce moment?
Pas encore. Nous, on s'est constitué en octobre. Donc, ouais. Moi, je fais partie de collectifs sur la ville. Effectivement, là-dessus, individuellement, on peut être actif. Mais au niveau de notre action à nous, on a commencé en octobre. Fin octobre, on a fait trois réunions. Donc, c'est tout jeune. Mmh. Et on est plus en train de fixer la raison d'être et les fonctionnements.
Et vous n'êtes pas tous d'accord, peut-être ? Si ?
Ah ben tu sais, quand on commence à discuter par exemple de la raison d'être, les mots, chaque mot, il y en a un qui va dire la bienveillance, oui, non, la bienveillance c'est un terme qui est très employé en société commerciale, c'est dévoyé déjà, donc on va préciser ce que c'est exactement, donc c'est, tu vois, ça prend du temps, on n'est pas d'accord heureusement, mais on finit par trouver un accord, un consensus ou une majorité de gens, ou une totale unanimité de gens qui sont d'accord sur les termes. On essaye d'aller vraiment toujours sur le fait que tout le monde soit d'accord pour dans les détails. Donc c'est vrai que ça prend du temps, y compris pour les fonctionnements. Hein. Effectivement, on peut avoir des divergences. L'important, c'est de construire ça ensemble.
Et justement, par rapport à ces divergences, on pense naturellement en France que toutes les divergences peuvent se résoudre par un vote majoritaire. Et là, tu parles de consensus à trouver dans des réunions, c'est peut-être plus long, mais est-ce que c'est une voie justement à explorer pour cette démocratie qu'on recherche tous aujourd'hui ?
Alors en fait, si tu veux, ça va dépendre beaucoup des décisions. Je pense que toutes les méthodes de vote que je connais pas parfaitement, il y a Condorcet, il y a consensus, il y a vote majoritaire à 50 plus 1, après plus 66% ou 75%. Tous ces types de votes sont... je parle pas d'élection, hein, je parle pas
de vote, de prise de décision, oui.
Voilà, de prise de décision, ça va dépendre un petit peu des éléments. Si je te prends par exemple, je sais pas, quelque chose qui serait très important, par exemple, on décide par nous-mêmes pour nous-mêmes, ou bien une décision importante, on pourrait fixer un seuil à 75 plus 1, tu vois,
ouais.
Si on voulait changer des choses fondamentales. Et puis, si c'est pour décider de quelque chose d'urgent qu'il faut vraiment prendre comme décision, c'est oui ou non, on pourrait dire on va faire un 50 plus 1. Par contre, si on est sur la définition de mots, on va pouvoir se dire c'est à l'unanimité, il faut pas qu'il y ait... Alors après, ça dépend également du nombre, évidemment. Hein.
Eh oui.
Si on est 10, si on est 15, si on est 50 ou 100, les choses commencent à changer.
Et est-ce que c'est pas justement un de ces enjeux de cette démocratie participative d'imaginer des formes de fonctionnement qui sont un petit peu à explorer, justement, à imaginer, à tester aussi, puisqu'on a le droit de se tromper, on peut faire des essais. Est-ce que c'est pas aussi le sens de la démocratie participative, ça ?
Oui et non, je dirais oui, dans la mesure de toute manière ça aura lieu. D'autres, mais par contre, si tu veux, je me rapprocherai davantage de fonctionnements qui ont existé ou qui sont mis en place par des gens qui réfléchissent, mais également avec l'historique, pour essayer de ne pas refaire
les erreurs, quête,
quoi, le chaude. Ouais. Essayer, et puis surtout, si tu veux, surtout partir, moi quand j'ai créé le café, on est parti sur des statuts d'un autre café,
oui.
Tu vois, et puis on l'a adapté. On les a adaptés, parce que sinon, il faut vraiment du temps. Hein.
À chaque fois, on repart de zéro, et c'est pas forcément une bonne idée non plus.
Et puis, on risque de tomber dans des écueils que les autres avaient paré depuis bien longtemps. Donc, je pense que, faut pas trop refaire les choses. Là, j'ai vu quelque chose du collectif Archipel Citoyen, je crois que Toulouse, Maxime, que tu avais invité.
Oui.
Et ils ont sorti un truc de la curieuse démocratie avec un tiers, je crois, de tirer au sort total. Après, on leur demande s'ils sont volontaires. Je parle pour les listes municipales, par exemple.
Ouais.
Un tiers, je crois, qui venait des associations. C'était coopté par les associations, avec également à la finale, je crois, un tirage au sort. Et un tiers, je crois, qui venait de volontaires. Ça, c'est quelque chose qui commence à me parler, moi, par exemple.
Ouais. Donc, intéressé par ces aspects aussi dans la démocratie, d'introduction de ce qui s'appelle le tirage au sort, c'est un petit peu aussi une recherche que tu fais avec les autres membres de ce collectif sur Montrouge.
Est-ce que c'est une voie que tu explores, non ? Mais On n'en est pas encore là, mais pour moi, évidemment, le tirage au sort est, ne peut pas être dissocié de la démocratie. Hein. Si tu veux, pour moi, le tirage au sort fait partie de... On prend un panel pour effectivement être bien représentatif, comme dans les études de marché. Donc pour pas voilà. Mais après, si tu veux, le tirage au sort, on n'élit pas une personne, hein, jamais. Donc ça va être, par exemple, si on prend une dizaine de personnes, il n'y a pas plus de raison de trouver un fou parmi une dizaine de personnes que parmi 50 millions de personnes. Et à partir de là, s'il n'y en a qu'un sur 10, bah, il ne va pas être usile. Et puis il y a toujours moyen également de pratiquer une exclusion par rapport à un rôle, hein, par rapport à une fonction.
Ouais, donc là tu dis. On n'élit pas, on fait pas du tirage au sort personne par personne, mais par groupe entier, c'est ça ?
On tire au sort des individus pour alimenter des groupes, comme un jury citoyen, si
d'accord,
tu veux.
Oui.
Un jury citoyen, aujourd'hui, dans la 5e République, il est tiré au sort. Il y a des avocats qui vont récuser un ou deux ou trois ou quatre jurys, un maximum. Et puis d'ailleurs, après, une fois que l'assemblée des jurys s'est constituée, bah, c'est eux qui vont décider ensemble. Et une personne qui serait mal à sa place, qui n'aurait pas été décelée avant, par le groupe sera minoritaire dans son exubérance ou dans sa volonté de prendre le pouvoir ou dans sa volonté de décider quelque chose qui n'est pas du tout conforme à l'objet qui lui est décidé. Oui.
Et donc, tu me disais, tu reprenais l'exemple de Toulouse, mais est-ce que c'est quelque chose de permanent ou qui se développe parmi les autres collectifs en France dans le cadre de cette réflexion pour les élections municipales, cette idée de tirage au sort, est-ce que c'est quelque chose qui a le vent en poupe aujourd'hui dans ces collectifs ?
Je crois pas. Je crois pas que, si tu veux, en fait, il y a une dissociation à faire entre liste participative,
ouais,
et démocratie. Tu vois, il peut très bien y avoir des collectifs qui montent une liste participative, ce qu'on encourage, nous, au niveau national, parce que je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle noscommunes.fr, noscommunes-du6.fr, et on le retrouve sur Facebook en tapant plateforme nationale des listes participatives. Donc ces listes participatives, c'est l'objet, l'idée, c'est d'encourager les gens lambda, hein, pas des élus évidemment, puisqu'ils sont déjà encouragés naturellement, encourager des gens lambda à se présenter et à faire corps ensemble pour essayer de monter une liste. Alors le tirage au sort là-dedans, je suis pas sûr que ça soit pour eux, si tu veux, pour ces volontaires, mais quand même qui cherchent quelque part du pouvoir, que ça soit quelque chose qui vient tout à fait encore intégrer.
Mais c'est vers ça qu'il faudrait aller, d'après toi ?
Ah, moi, j'en suis convaincu, évidemment. Je suis convaincu, si tu veux, au moins, bon, je suis un peu particulier, peut-être, mais je suis très proche de la démocratie athénienne, au niveau de l'étude des fonctionnements, hein. Je parle pas du périmètre de citoyenneté qui était défini par les Athéniens, puisqu'il n'y avait pas les femmes, il y avait les esclaves, on le sait.
Oui, il y avait pas mal d'exclus aussi, oui.
Voilà, il y avait des exclus, hein, on est d'accord. Donc le périmètre, bah, on a évolué, hein.
Aujourd'hui,
on mange des animaux et on les abat et on les tue de façon assez horrible. Mais par contre, au niveau des droits citoyens, on a un peu évolué. Heureusement, et citoyenne, heureusement pour tout le monde. Mais si tu veux, effectivement, à quelqu'un qui veut le pouvoir, comme moi je me réfère aux Grecs, hein, le pouvoir corrompt. On peut être bien au départ ou pas bien. Et puis petit à petit, on se transforme. Donc, il y a une très belle interview d'ailleurs, je crois, d'Isabelle Attard sur Thinkerview, T-H-I-N-K-E-R, Thinkerview, V-I-E-W, sur une chaîne YouTube qui est formidable avec beaucoup de choses pour apprendre un petit peu. Et si tu veux, le tirage au sort est fondamental
principe qui permettrait une sorte de garde-fou, de contre-pouvoir. C'est un petit peu l'esprit de ce tirage au sort, en fait.
Exactement, c'est des gens lambda qui n'ont pas envie de pouvoir, qui sont brusquement projetés dans un rôle, ils l'acceptent ou pas, et à partir de là, ils prennent une responsabilité. Alors il faut effectivement un peu de formation, mais enfin d'apprentissage, hein, de la vie de différentes choses, mais ils sont pas moins compétents que les élus qui se présentent et qui arrivent comme ça, qui n'ont pas non plus de formation et qui pour beaucoup ne sont pas, moi j'en connais, hein, qui sont pas attachés au dossier, qui sont vraiment, ils attendent juste un poste, hein, donc voilà, il y a des gens qui parlent de compétences. Moi je pense que on est apte à décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, sur le local, sur le, en tout cas déjà là, c'est la base, et que franchement, n'importe qui, c'est du bon sens. Hein. Les jurys citoyens, ils sont pas avocats. Hein.
Oui. Voilà, dernière question avant la pause, puisque tu m'as dit que tu as été dans un membre d'un parti politique plutôt à gauche, écologique, élevé, pour ne pas les citer, il y a quelques années. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de claquer la porte et de te lancer dans cette aventure de participation citoyenne? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on quitte un parti pour aller justement dans cette expérience de démocratie locale?
Alors en fait, si tu veux, c'est deux choses. D'abord la campagne Eva Joly, qui représentait quand même une rigueur au niveau de la justice, qui représentait elle a mis sa vie en jeu, hein, donc quand même c'était pas rien. Et donc si tu veux, le parti n'était pas du tout en accord, il voulait Hulot, quoi. Et puis pas mal de militants ont fait ce qu'il fallait pour que Eva Joly soit choisie. Ils n'ont pas du tout soutenu. C'est-à-dire qu'on a eu une campagne très très difficile au niveau des moyens, même au niveau des affiches, au niveau des sites internet. Ça a été compliqué, très compliqué. Et puis également, j'étais conseiller départemental en interne et puis responsable local. Et j'ai monté en 2012, très rapidement, immédiatement, pratiquement quand je suis arrivé, parce que j'étais très investi. Je me suis représenté en 2012, pardon, ça c'était en 2000, enfin c'était avant, deux ans plus tard. Et en fait, là, ils ont bloqué. J'avais fait une motion à l'intérieur du parti pour plus de démocratie en interne.
Oui, forcément, des fois ça passe mal, ce genre de choses.
Ça leur a fait peur. Donc ils ont trouvé des moyens, ont augmenté les demandes par rapport à la liste, et puis ils ont trouvé des petits artifices. Moi j'avais tiré au sort la liste, la première de la liste n'était pas du 92. Et par contre elle était dans toutes nos réunions, mais ils ne l'ont jamais dit. Donc ils m'ont dit, bah oui, mais tu as quelqu'un qui n'est pas du 92, donc ta liste est obsolète. Donc voilà, ils sont débrouillés pour pas que ça soit possible, quoi. Mais tant mieux d'ailleurs, hein. Moi ça m'a permis
de faire autre chose.
Enchaîné sur démocratie réelle au niveau de l'Europe. J'ai fait une campagne qui m'a beaucoup apporté tout de suite en 2014 niveau des élections européennes. Ouais.
Ok. Alors je te propose aux éditeurs une première pause musicale, puisqu'on a déjà 20 minutes de parole, donc on va pas non plus tout dévoiler, puisqu'il nous reste quand même pas mal de choses à voir tous les deux sur cette question de ce qui se passe à Montrouge. Je vous propose une première pause. Daniel Darc, My Baby Left Me, sur Fréquence Sillée.
C'est pas parce qu'on a envie qu'il faut le faire tout de suite. Il n'y a que deux sortes d'histoires d'amour. Le garçon perd la fille. La fille perd le garçon. Je suis fixé sur mon sort. Une vague en or blanc, un nom inscrit dedans. Le premier des deux qui crève attend l'autre. Tu m'avais prévenu, mais je ne t'ai pas cru. Migraine, la tristesse durera toujours. Une fille de brève joie.
Daniel Darc, Magic, My Baby Left Me, dans Quartier Libre. Aujourd'hui avec Philippe Ponge de l'Assemblée locale permanente pour Montrouge. L'occasion aujourd'hui de prendre le temps pour expliquer, pour revenir sur ces questions de démocratie locale participative en vue des élections municipales de 2020, mais aussi, comme nous l'a dit Philippe Ponge, en dehors de ces périodes électorales. Alors, toujours là ?
Oui.
Oui, toujours là. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On a vu dans la première partie des éléments un petit peu théoriques, le tirage au sort, on a parlé de listes, etc. Là, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce collectif de Montrouge. Alors, c'est quoi l'objectif de ce collectif ?
Décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes.
Alors, c'est vaste, ça. Enfin, c'est une bonne idée, mais décider quoi ?
Ben, décider, si tu veux, de faits locaux qui nous touchent. Si on doit aménager une avenue, ben, nous donner notre avis, faire des propositions, délibérer ensemble, et puis après demander à la mairie, aux techniciens, hein, puisqu'on pourrait aussi avoir la mairie, demander aux fonctionnaires de faire appel à des gens, des urbanistes, qui nous soumettent des projets par rapport à ce qui avait été prévu par l'Assemblée locale. Ça peut être de discuter des cantines, de ce qui est bio, comment est-ce qu'on pourrait manger, à combien, à quel prix. Ça pourrait être de définir une place piétonne, un quartier piéton, ça peut être de parler du stationnement, ça peut être tous les sujets qui touchent en fait
la vie du citoyen.
Ou le passant, l'habitant, le résident, ou le commerçant, ou le salarié qui passe à Montrouge. Hein.
Oui, alors moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, le maire pourra vous dire ou te dire à toi, mais ça existe déjà, il suffit de venir me voir dans mon bureau, la porte est ouverte, et on peut en parler tous les deux.
Bah écoute, moi j'ai déjà essayé ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentré en politique à un moment. Par exemple, on n'avait pas d'ATSEM, agents territoriaux spécialisés en école maternelle pour les pour les maternelles, donc, hein, on en avait en petite section, on n'en avait pas en grande, en moyenne section et en grande section. Or, t'imagines, à 4 ans ou à 5 ans, quand tout le monde doit descendre dans la cour, faut faire les lacets, quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a des ateliers peinture, elles s'en sortent pas avec 25, 28, 30 élèves, ces chères institutrices.
Ouais.
Donc, j'ai étudié la question, et puis j'ai fait un audit des animatrices, des profs, vu ce qui était le besoin où il était par rapport à l'existant.
Ouais.
Je me suis rendu compte qu'en fait, en décalant en fait les services, parce qu'elles se chevauchaient, les ATSEM en petite section, sans aucun coût, on pouvait mettre des ATSEM en moyenne section et en grande section un jour sur deux, par contre.
Oui, donc c'est juste une gestion, une meilleure gestion de l'emploi du temps du personnel. C'est un petit peu ça le...
Exactement, voilà, donc oui. Simple. Tu vois, donc j'ai proposé ça à la mairie, par écrit, hein. Ça a été un non total tout le temps, ça a duré 4, 5, 6, 7 mois.
Ah oui.
J'ai fini, donc je me suis inscrit moi je pensais que ça allait mettre 2 mois, j'étais un peu naïf, hein. J'ai fini par m'inscrire sur Europe Écologie Les Verts. À l'époque, j'ai fait une campagne c'était départementale à l'époque, et je suis cantonal, et je suis tombé sur la femme du maire,
ouais,
que je n'ai pas reconnue. Et là, elle m'a dit, enfin, je lui ai dit les problèmes à Montrouge, le maire, machin. Il m'a dit, attendez, je suis la femme du maire. Ah. Bon, vous avez 2 minutes. Oui, bon, ben, je vais vous expliquer. Donc, je lui explique le dossier, et elle me dit, bon, mais je vais me renseigner. Elle s'est renseignée, un mois plus tard, ça passait en conseil municipal, et à la rentrée suivante, tout le monde avait des ATSEM, même en grande section, tous les jours.
Ouais.
Donc si tu veux, aller voir le maire, discuter, là sur les arbres, on a le même problème, on était jusqu'au préfet, moi je me suis, avec le collectif, on était devant les gendarmes, ils ont envoyé quand même, ils ont poussé, ils nous ont, et puis grâce à ça, on a eu un rendez-vous en mairie, immédiat, sinon on n'arrivait pas à avoir un rendez-vous. Mmh. Et ils nous disaient, prenez rendez-vous, mais ils nous le donnaient pas. Là, on l'a eu au bout d'une heure, et on a mis les éléments, on les a écoutés, on avait étudié le dossier, donc on les a contredits sur ce qu'ils disaient, ça n'avance à rien, et toujours pas aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'est malheureusement...
De manière individuelle, c'est très compliqué, en fait. C'est pour ça qu'il faudrait, qu'il faut, enfin, que vous avez sur Montrouge, décidé peut-être de créer ce collectif pour être une force un peu plus représentative ou importante, avec une voix un peu différente que si on est tout seul.
Exactement. Si tu veux, sur le stationnement, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu, comme nous, à d'autres sujets, sur les cantines à une époque, ils ont eu des petites avancées mineures. Mmh. Et pourtant, ils sont, quand on touche la voiture, tout de suite, il y a 1700 personnes dans le groupe. Très rapidement, il y en a eu, voilà. Donc moi, hein, même si j'ai un parking, c'est pas grave, je suis solidaire sur ça, je suis pas sur toutes les actions. Mais là, je trouve ça normal de pouvoir laisser sa voiture pour aller travailler en vélo ou autrement, et sans payer un prix prohibitif. Eh bien, si tu veux, même ça, c'est très compliqué quand t'es nombreux.
Ouais.
Donc la convergence des luttes que souhaitent un certain nombre de personnes, moi je veux bien, mais si on commençait par la convergence des fonctionnements,
c'est-à-dire
peut-être
des fonctionnements, c'est-à-dire, là j'ai pas compris, excuse-moi.
Eh bien en fait, si tu veux, c'est une personne, une voix.
Ouais.
Il n'y a pas de gens qui ont du pouvoir plus qu'une autre. Il y a la rotation des postes, il y a des rôles, des fonctions.
Mmh.
Tu vois, quelque chose qui permette et qui satisfasse chacun. Quand tu crées une place, quand tu te dis, moi j'aimerais bien un petit banc là, en bois, machin, et que ton banc il est là, t'es content. Et tu te dis, j'ai été actif, c'est grâce à moi, tu peux le dire au copo, à l'ami, etc. Donc tu te dis, ben voilà, je vais pouvoir continuer à participer, je suis reconnu. Quand on te dit non, c'est pas possible, tu vas manifester dans la rue, vous êtes 300 000, 400 000, bah c'est non, quoi. Il faudra que vous soyez 2 millions ou 3 millions. Enfin, au bout d'un moment, tu descends plus, quoi.
Est-ce que...
Et tu fais plus rien.
Alors, je dévie un petit peu, on revient sur les choses un peu peut-être théoriques, mais est-ce que pour changer le monde, il faut déjà pas commencer par changer autour de soi ce qui va pas, ce qu'on voit, tout simplement au niveau d'une commune?
Exactement. Il faut changer d'abord personnellement. Il faut évoluer personnellement. Et évidemment, il faut agir micro-localement, c'est-à-dire il faut appliquer ce qu'on dit, ce qu'on pense au local, au micro-local en premier lieu,
ouais.
Et puis après au local, ce qu'on essaie de faire là, et puis après peut-être dans les communautés de communes, peut-être dans les départements, peut-être, on a un territoire qui est découpé de façon un peu bizarre, bon bah il faut faire avec parfois, on peut faire aussi sans, voilà.
Alors, on va revenir à ce collectif. Est-ce que c'est un collectif, une association ? C'est quoi la forme juridique aujourd'hui de cette structure, de ce collectif ?
Alors, au départ, donc, c'est un collectif. Évidemment, si on devait aller au municipal, il faudrait monter une association.
Ouais.
Et même pour avoir des salles, on peut avoir besoin de monter de créer un statut juridique associatif, quoi.
Oui, parce que pour louer des salles auprès d'une municipalité qui ne veut pas forcément, comme tu expliquais, entendre des gens pas contents, enfin recevoir des gens pas contents, il faut mieux avoir cette forme juridique associative pour le coup.
Eh ouais, t'es un peu obligé à un moment ou un autre de, effectivement, surtout quand dans des endroits où il fait pas très beau, il y a un moment où il faut effectivement pouvoir se mettre à l'abri.
Ouais.
Donc, quand t'as épuisé les cafés, il y a un moment où effectivement, ça peut être utile d'être en association.
Ouais.
En association.
Alors, l'autre question que je pose souvent aux personnes qui travaillent, enfin qui réfléchissent sur ce genre de choses, de collectif, comment ça s'est mis en place ? Est-ce que ça s'est mis tout simplement 3-4 personnes dans un café en discutant ? Est-ce que ça commence comme ça ?
Ouais. En fait, moi j'avais un gars qui était Antoine, qui est sur une plateforme nationale de listes participatives sur Facebook, et par hasard, il a appris que j'étais sur Montrouge, et lui aussi. Et puis j'avais un autre copain ici qui est très intéressé par qui a fait une expérience avec le DEM de Montmartre, sur lequel je l'ai suivi d'ailleurs à l'époque. Qui était un peu une école de la démocratie pure, quoi. Mmh. On s'est réunis à trois dans un café vite fait. On devait se voir avec Antoine comme ça, et puis je lui dis, bah viens, puisque je l'ai croisé par ailleurs. Et puis voilà, on a lancé ça autour d'un café. On a dit voilà, on lance le premier rendez-vous pour telle date, 10 jours plus tard. Et on amène chacun une ou deux personnes si on peut. Et puis c'est comme ça que ça part. Ouais.
Ouais. Et donc ça a commencé au mois d'octobre, c'est ça, c'est tout récent.
Fin octobre.
Et vous êtes combien lorsque vous réunissiez aujourd'hui dans ce collectif ?
Aujourd'hui, on est une dizaine seulement.
Ouais.
Alors on n'a pas non plus énormément ouvert. Parce que, moi j'ai un peu diffusé parmi les gens que je sens sensibles à tout ça, mais si tu veux, on voulait d'abord, le groupe avait envie d'abord, moi je suis un peu plus flou que ça, mais voilà, moi je me plie aux décisions du groupe, et ils avaient envie d'abord d'avoir un message, une raison d'être,
ouais.
Pour diffuser. Donc on n'a pas du tout diffusé dans nos canaux un peu plus généraux, un peu plus larges. On n'a pas diffusé, donc voilà, c'est pas...
Oui, que ce soit plus formalisé avant de le présenter aux gens, c'était un petit peu ça.
Voilà, formaliser au moins les
objectifs, oui. C'est-à-dire voilà, que ce soit écrit, qu'on ait des choses à donner, par exemple. Enfin, des tracts ou des affiches ou des choses comme ça.
Ah non, pas des tracts, des affiches dans un premier temps, on n'en est pas là. Mais si tu veux, plutôt, tu vois là, par exemple, on a sorti un texte et l'ALP propose des outils et méthodes pour permettre aux Montrougiennes et aux Montrougiens de réfléchir, de proposer, de débattre et de décider pour nous-mêmes et de bien vivre ensemble. C'est aussi un lieu de partage et de savoir. Tu vois, rien que pour faire cette phrase, il nous faut une heure, quoi.
D'accord, oui, c'est parce que chaque mot est pesé. Tu parlais d'outils alors que d'autres parleraient d'objectifs, de projets. Et toi, tu parles d'outils. En quoi c'est important les outils dans ce genre de choses ?
Alors effectivement, et puis il y a des gens qui confondent d'ailleurs les valeurs avec les outils. Ben, en fait, les outils, c'est important parce que, je parle outils et méthodes, parce que si tu veux, si en début de réunion, c'est toujours le même qui anime,
ouais.
C'est souvent un mec. Ou si c'est la prise de parole, elle est accaparée par une personne. Ou si les choses ne se construisent pas dans un ensemble d'avis variés qui permettent de faire avancer les choses.
Ouais, et puis les gens qui viennent là sans pouvoir forcément s'exprimer ne reviennent pas à la fois suivante.
Oui, déjà, oui, bien sûr, c'est effectivement important. Mm-hmm. Mais on voit des groupes dans des parties qui parlent pas et puis qui finalement viennent encore pour alors les raisons après je peux pas les déterminer, mais effectivement oui, bien sûr. À partir du moment où on est entendu, écouté, ça fait plaisir quoi.
Ouais. Donc là, les outils et la méthode visent essentiellement à la mise en place d'une participation qui soit la plus large possible, c'est un peu ça.
Alors c'est pas l'objectif, bien sûr si c'est l'objectif qu'on soit le plus nombreux possible, mais c'est pas pour ça qu'on fait des fonctionnements comme ça.
Non mais je veux dire, je pensais plutôt à la participation, c'est que chacun puisse trouver sa place pour pouvoir s'exprimer, dire, prendre le temps de dire les choses.
Oui,
les outils
fait,
qui
ouais.
servent à ça, donc c'est encadrer un petit peu cette forme de démocratie avec ces guides.
Ces méthodes de fond.
Ces méthodes, voilà.
Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai pratiqué des World Café il y a déjà très longtemps et je continue à en faire, et dans le café associatif, on en fait également. j'en ai initié et puis on continue à en faire. Qui permettent de faire des petites tables quand on est très nombreux, un forum ouvert, on peut être 2000 avec 4 animateurs, ça se gère.
Ouais.
Hein, qui permettent de faire des petits groupes pour travailler sur les sujets et puis après de remonter les choses au niveau de l'Assemblée pour prendre les décisions. Oui, il y a des méthodes, il y a des facilitateurs, facilitatrices, hein, qui sont des personnes qui ont l'habitude c'est un métier aujourd'hui, d'aider au fonctionnement et à la prise de décision. Il y a des gens qui font des processus de délibération. On a des tableaux, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a des outils à distance qui ouais. permettent effectivement aussi d'avoir des documents partagés, de collaborer à distance, de
on voit aussi des votes, un système de vote à distance aussi. On en voit qui commence à être mis en place sur des plateformes dites collaboratives.
Oui, nous on avait utilisé en 2014 avec Démocratie Réelle un outil qui s'appelle Lumio,
ouais.
qui permettait effectivement, dans un premier, qui existe toujours, hein, mais il est passé dans le domaine privé, qui permettait de délibérer, et puis au bout d'un moment, n'importe qui pouvait proposer une décision. À partir du moment, à ce moment-là, la décision était bloquée au niveau des termes, et dès qu'il y avait quelqu'un qui avait voté, et il y avait 4 votes. Il y avait « je suis pour », « je suis contre », « je laisse le groupe décider » ou « je bloque » parce que ça ne correspond pas à certains fonctionnements qui avaient été décidés en amont,
d'accord.
précédemment. Ouais.
Alors moi, c'est une question que je me pose, on voit que... Ben, on voit tous que quand on est très nombreux dans une assemblée, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et des fois ça va jusqu'au conflit d'ailleurs. Et je voulais savoir si vous aviez utilisé des méthodes justement ou des outils qui permettent la gestion des conflits dans un groupe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces collectifs qui s'intéressent à la démocratie locale et participative, cette gestion des conflits ou des avis divergents?
Alors, il y a des approches effectivement pour gérer les conflits. Il y a l'université du Nous qui a développé des vidéos où on peut un petit peu voir comment on peut faire ça. Mais il y a surtout, si tu veux, au niveau des, puisque tu parles de décision, il y a surtout l'idée, il y a des schémas qui permettent effectivement, quelqu'un fait une proposition, on la note, et puis après il y a une clarification avant de dire on n'est pas d'accord, etc. On demande s'il y a de la clarification. Voilà, c'est fait, il y a une argumentation qui peut être nécessaire. Et puis après, il y a effectivement des gens qui peuvent proposer des amendements, qui disent ouais, alors oui et non, etc. Puis après, ça revient aux clarifications s'il y a besoin de clarifier les amendements, etc. Et finalement, une fois que toutes les objections sont posées, les amendements sont posés, il y a une promulgation qui est réalisée. Donc c'est des allers-retours, c'est des habitudes de fonctionnement, et ça permet de dissiper les conflits.
Alors pour terminer cette deuxième partie, la question que je me pose ou que les auditeurs peuvent se poser, c'est qui sont les gens aujourd'hui qui participent à ce collectif, le profil, est-ce qu'il y a des élus dedans, qui êtes-vous en fait? Enfin ce collectif,
alors, non,
il y a 10 personnes, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés là?
Je pense que c'est un peu le ras-le-bol de la politique, des politiciens surtout. Il n'y a pas d'élus parce que eux, pour l'instant en tout cas, ils ont leurs objectifs dans leur parti.
Oui.
Donc et puis voilà, moi je trouve ça très bien qu'ils restent dans leur parti d'ailleurs, personnellement, parce que c'est des gens qui ont un savoir-faire, qui ont voilà.
Donc c'est des gens qui sont déjà engagés dans des partis politiques, d'après ce que tu me dis alors.
Non, justement pas. Non, c'est des citoyens qui considèrent que effectivement, il y a un moment, il faudra peut-être qu'on se bouge localement, parce que ils voient comment le monde va et comment il y a une incapacité de contrer des décisions sur lesquelles ils seraient pas d'accord. Donc petit à petit, oui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire, agissons concrètement, quoi. Essayons d'agir, en tout cas.
Voilà, je propose une deuxième pause musicale. On va retrouver la chanson qui s'appelle « Le navire éphémère » par Serge Ujeroyo dans Quartier Libre sur Fréquence Ciliée.
Planète, petit flocon bleu, navire éphémère coulant dans le temps, fragile planète, roule encore un peu, lèche tes blessures, garde-nous longtemps. La vie porte des odeurs, des chants disparus dans le cœur des loups, et c'est doucement que viennent les peurs et les regards blêmes vers un soleil roux. Le cœur de la terre gémit sous nos pas, le ciel est brûlant et réchauffe l'air, le désert avance et tire ses bras. Le nord et le sud fondent dans la mer. Fragile planète, petit flocon bleu, navire éphémère coulant dans le temps. Fragile planète, roule encore un peu, lèche tes blessures, garde-nous longtemps. Des fûts de pétrole rouillent sous la pluie, des enfants s'étonnent dans le gris matin, le sang qui s'évade ressemble à la nuit, une nappe large qui pleure sans fin. Les festins des hommes mordent les vivants, des animaux tristes dévorent leur corps. Faudra-t-il cesser de faire des enfants? La danse lugubre hante le décor. Fragile planète, petit flocon bleu, navire éphémère coulant dans le temps. Fragile planète, roule encore un peu, lèche tes blessures, garde-nous longtemps. La nature est belle encore et encore, elle est notre mère et notre avenir. Combien de printemps retiendront la mort? Les derniers silences tardent à venir. Tes yeux nous sourient malgré la fureur, tes mains sont tendues derrière les fous. Le jour donne encore de belles lueurs, le chant des humains murmure très doux. Fragile planète, petit flocon bleu, fragile planète, roule encore un peu.
Ben belles chansons de Serge Gérouillou sur Fréquencier. On revient avec notre invité Philippe Ponge, un des créateurs de l'Assemblée locale permanente pour Montrouge, puisque vous êtes plusieurs à avoir décidé de créer ce collectif. On parlait avant cette pause musicale des outils, on a parlé des outils qui permettent de prendre des décisions, de gérer les conflits, et tu voulais en ajouter un autre.
Oui, je voulais vous parler de Trello, qui est un gestionnaire de tâches qu'on utilise pour le café associatif, qui est très puissant pour organiser même un mariage. Hein. C'est utilisé par plus de 20 millions de personnes directement ou indirectement dans le monde.
Ouais.
Ça permet de... voilà. C'est un formidable outil de gestionnaire de tâches pour attribuer des missions, pour classer les choses, pour regrouper des sites internet, etc. Vous trouverez un modèle tout prêt, éventuellement, que vous pouvez modifier, qui est en libre, qui est ouvert, qui est gratuit. Hein. On vous le fournit gratuitement tel qu'il existe, sur noscommunes.fr, donc nos-du-6 communes avec un S. Et donc c'est un modèle que vous pouvez copier-coller et modifier derrière.
Mmh. Alors, de toute façon, je mettrai tous ces liens que tu as donnés sur la page de cette interview pour que les auditeurs, super, auditrices puissent cliquer et aller directement réécouter, voir toutes les infos que tu nous as données. Alors, donc la question que je me pose, mais forcément, oui, il y a d'autres exemples de collectifs en France. Tu parlais de la plateforme 36 000 communes.
Plateforme nationale des listes participatives. Hein. 36 000 communes, c'est vraiment autre chose.
D'accord.
C'est intéressant. Il y a plein d'éléments intéressants. Néanmoins, c'est géré par une seule personne. Donc c'est encore
autre chose. Alors, il y a combien de, comme tu as l'air au courant de ce qui se passe au niveau national, est-ce que tu as une idée du nombre de collectifs qui existent aujourd'hui en vue de ces municipales de 2020 aujourd'hui en France ?
Pas trop, en fait. Je crois qu'il y en a une centaine, mais pas trop, non.
Centaine, moi je trouve déjà que c'est pas mal, hein.
Oui, mais après, qu'est-ce qui va aller au bout, etc. Mais je peux pas te dire. Moi, j'ai quitté un peu tout ça pendant 2 ans et demi parce que j'étais investi à 50 à 90 heures bénévolement dans le café. Donc, ouais. J'ai pas suivi. Moi, j'ai repris là fin août. Donc tu vois, c'est pas très vieux. Donc, j'ai pas suivi effectivement toute la mouvance. Il y a un truc que je peux vous citer, par contre, c'est la Belle Démocratie, LBD, la Belle Démocratie, qui est très très rigoureuse, j'étais le week-end d'avant, ils ont fait un truc à Belleville, une réunion de tous les gens qui avaient envie de s'informer un peu de tout ça.
Ouais.
Il y a des choses qui vont se lancer, je peux pas dévoiler non plus de certains messages, mais par pour les jeunes, enfin il y a des choses qui se bougent. Mais je peux pas te dire par contre le nombre de communes qui est en démarche.
Alors j'essaie de me renseigner par ailleurs. Alors retour sur Montrouge, puisque ce collectif pas encore associatif, oui.
Par contre, oui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont existé hein, au préalable. Il y en a bien sûr en Espagne qui courent toujours actuellement, c'est très intéressant. Mais il y a des choses qui ont existé, par exemple à Grigny, c'était un élu, mais il y avait ils voulaient mettre 100% du budget d'investissement décidé par les citoyens. Et il était à 40% en 2000. Voilà. Donc c'est pas tout nouveau, hein, tout ça. Il y a quand même, puis si on remonte évidemment à Athènes, mais même au Moyen-Âge, hein, il y avait des choses qui se faisaient, les gens décidaient des chemins, d'un certain nombre de choses au niveau de... Voilà. Donc en Suisse, bien sûr. Donc, bien sûr, aujourd'hui, ça a plus de voix, plus d'écoute, parce que certaines personnes ne constatent qu'aujourd'hui que les politiques font ce qu'ils veulent, et peut-être parce que effectivement la situation va de moins en moins bien, que les collapses, ça je vous invite vraiment à vous intéresser à la collapsologie. Hein.
Alors c'est quoi ça, parce que là, sans dire un terme médical, donc vas-y.
Excuse-moi, on dérive un peu, mais c'est tellement important. En fait, si tu veux, c'est... Alors c'est Yves Cochet qui est parlementaire européen, qui a financé pendant 3 mois Pablo Servigne et Raphaël, je ne sais plus son nom, pour faire une étude sur l'effondrement possible de nos sociétés.
Ah d'accord, oui, ça j'en ai entendu parler de cette étude, oui.
c'est dans la continuité des courbes de Meadows, hein, 1974-2004, et beaucoup de gens qui avaient écrit là-dessus. Mais Pablo Servigne, ils ont eu l'intelligence de faire un livre qui a eu beaucoup de succès. Et il y a beaucoup d'interviews que vous pouvez retrouver en tableau Pablo, en tapant Pablo Servigne, S-E-R-V-I-G-N-E. Il y a un site également, moi, sur montrouge.org. Je vous ai tout regroupé dans un truc qui s'appelle Émancipation Collapsologie. Vous avez plein de vidéos. Mm-hmm. Et en fait, ça parle, si tu veux, d'un collapse, c'était un effondrement systémique pendant environ une année. Qui empêcherait d'avoir de l'alimentation, du transport, de la santé, de l'éducation, tout ça. Ça veut dire que t'imagines 55 millions de Parisiens qui débarquent en province, les régionaux, ils vont les voir arriver, on dirait vous êtes qui, vous. Enfin, on a 3 jours de réserve alimentaire. Hein. Je ne vais pas faire du catastrophisme ni du survivalisme, mais c'est scientifique. Hein. C'est des ingénieurs hein, qui travaillent sur des données scientifiques. Et la collapsologie va plus loin. Elle cherche à voir comment anticiper cela et comment se préparer mentalement. Pas seulement, il y a le côté sociologique, psychologique, il y a tout un ensemble de phénomènes qui est très intéressant chez Pablo Servigne. Voilà.
Mmh. Alors revenons à ce collectif citoyen. Donc vous êtes aujourd'hui une dizaine, et la question que je me pose et que peut-être beaucoup se posent, c'est comment les habitants de Montrouge vous considèrent-ils aujourd'hui, vous qui arrivez avec des idées peut-être complètement farfelues pour eux?
Ouais, bah, en fait si tu veux, le problème pour moi en tout cas, c'est que j'ai tendance à continuer à utiliser, par exemple, le mot démocratie. Il faut pas. C'est un combat de langage, on l'a perdu. Ils nous ont volé le mot, c'est mort. Politique. Il faut surtout pas parler de politique. Le mot politique, c'est pas bon.
Ouais.
Parce que les gens assimilent ça à ce qu'ils connaissent, ce qu'ils voient. Et c'est vrai que dans cette considération, ces mots-là sont vraiment dénués de leur sens premier. Donc, si tu veux, quand les gens nous écoutent, ils sont très intéressés quand on parle des choses. Ils s'éloignent dès qu'on prononce des mots un petit peu dévoyés. Et puis, ils ont du mal à faire la démarche de venir. Ils mmh. attendent, si tu veux, que les choses soient un peu en place, que ça monte un petit peu en taille. Je te parle pas des commerçants qui, eux, ont peur, effectivement, par rapport à la mairie. Ils veulent pas du tout se mouiller. Ouais. Mais par contre, en off, ils sont là. Donc si tu veux, c'est perçu comme une petite initiative, on verra bien ce que ça donne, quoi.
Pour l'instant c'est plutôt d'un œil un peu curieux, mais sans appréhension, puisque vous êtes pas encore très important, c'est un petit peu ça.
C'est ça. Mais ouais. Tu sais, quand j'ai créé le café associatif, tout le monde me disait t'arriveras à rien, tu fais rêver les gens pour rien, je te passe les gros mots. Et puis voilà, et puis ça dure depuis 3 ans et on a financé ça que par des dons. Mmh. Enfin bon, bien sûr c'est un peu rêvé, mais si on n'essaye pas, si je parlais de collapsologie, c'est qu'il faut que le lien se crée entre les gens pour qu'ils puissent s'entraider aussi, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc si on n'arrive pas à se mettre en lien ensemble pour on n'arrivera pas à changer quoi que ce soit. Donc soit on reste chez soi et puis on privilégie son confort et sa vie.
L'individualisme. Aussi,
ouais, voilà, qu'est-ce que je peux faire tout seul, de toute manière, ils sont plus forts. Bon, soit on essaye de faire pacifiquement des choses qui sinon vont dégénérer et qui seront récupérées derrière par des gens qui sont pas organisés. Et donc, comme après la révolution 1789, ça sera également récupéré non plus par des bourgeois, mais par des multinationales. Mmh. Donc, il y a un moment, même après un collapse, si on s'est pas préparé, on retombera dans des pièges pires ou analogues.
Alors,
il faut se préparer, quoi.
Alors, tu parlais de mots à ne pas employer, démocratie, politique. Et donc, vous, qu'est-ce que vous employez comme mot pour désigner ça, concrètement ?
Liste participative, consultation, décision partagée, auto-organisation, personnes concernées. Tu vois, même l'écologie, c'est un mot qu'il ne faut pas dire, quoi. Il faut dire nature, il faut dire animaux et environnement.
Ah ouais.
Faut pas dire... faut pas dire social, faut dire solidaire. Ben oui, parce que sinon t'as des gens qui, si tu veux, ouais, encore un socialiste, ouais.
D'accord, le catalogage politique ben, classique, quoi, enfin, qu'on retrouve un petit peu partout.
Ben ouais.
Ouais.
Donc, quand tu vois ce qu'ils appellent démocratie, c'est pas la peine de chercher. Moi, j'ai essayé hein, pendant plusieurs mois sur les campagnes, j'ai essayé de dire on n'est pas en démocratie. Bah, il y a 4 ans, ça passait mal, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, si tu veux, bah, bien sûr, on est en démocratie. Regarde, si on n'est pas content, on le vire dans 4 ans. Mmh. Bah ouais, mais t'auras qui à la place, quoi? T'auras un autre qui... Ça change... Enfin... C'est des pantins, des pantins plus ou moins radicaux, mais derrière c'est des lobbies, c'est des sociétés, c'est des multinationales, c'est des intérêts économiques multiples, dont beaucoup acceptent d'ailleurs parce qu'ils vivent dans un confort relativement important. Mais quand voilà, donc ces mots-là, il faut pas, à mon sens, hein, il faut être plus malin qu'eux, il faut dire ok, on arrête de se battre sur les mots.
Mmh. Et on se bat plus sur les idées et sur la méthode aussi.
Exactement. Mmh. Intelligence collective, tu vois, partage, autonomie alimentaire, tu vois, des trucs qui, voilà, où les gens comprennent. Tu sais, si on est de plus en plus nombreux dans cette sensation, enfin, dans ces mouvements, dans ces idées, c'est qu'il y a une sensation quelque part. Ça vient pas. Les brevets, ils viennent pas n'importe quand. Les idées, il y a 15 personnes qui en ont, et puis il y en a deux qui cherchent à la mettre en place, puis il y en a un qui la met. Mais si tu veux, c'est un contexte. Hein. Nous, on n'invente rien. Tu vois, à notre échelle, voilà quoi.
Et tu dirais que c'est mûr aujourd'hui ce genre de
pas encore.
Pas encore.
Non.
Ça
monte, ça mais monte. Pas encore. Non.
Alors, l'autre perception qui m'intéresse, c'est celle des élus, des partis politiques par rapport à cette initiative sur Montrouge. Est-ce qu'il y a des contacts ou des choses qui vous sont revenues?
Écoute. Non, pas grand-chose. Et puis moi, si tu veux, je suis dans cette démarche depuis un bon moment. Donc, ils me connaissent. Ils savent que, a priori, moi, je suis anti-politique, anti-élu. Pour moi, si ça tenait qu'à moi, je considérerais qu'un élu n'a pas sa place dans l'Assemblée locale pour, en tout cas, une année, et certainement pas pour des élections, dans la mesure où ils veulent le pouvoir. Il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. C'est un principe aussi. Mmh. C'est un principe de démocratie. Il ne faut surtout pas donner le pouvoir à quelqu'un qui le veut, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait au café.
Beaucoup de monde le veut, hein. C'est ça le truc.
Ben ouais, mais non, pas tout le monde. La plupart des gens intelligents qui ont un peu de... qui sont dans la vie quotidienne, ils veulent surtout pas de pouvoir, ils savent que c'est la folie, quoi. Que c'est un monde de fous, quoi. Non. Ceux qui veulent du pouvoir, c'est ceux qui n'ont pas réussi ailleurs, c'est ceux qui savent faire que ça, c'est les gens qui veulent de l'argent, non. Ceux qui veulent le pouvoir, il ne faut pas les mettre. C'est pour ça que le tirage au sort a son intérêt.
Oui, ça évite justement ce genre de personnages, de personnes, de pouvoir arriver et de demander ou d'exiger certaines choses.
Exactement, c'est comme l'archipel citoyen. Ils ont mis un tiers. Moi, je suis limite parce que si on a un tiers de volontaires, un tiers de gens qui sont issus d'associations et seulement un tiers des associations, c'est bien, hein, c'est déjà très très bien. Mais moi j'aurais poussé un peu plus haut, hein, mais c'est pas grave, c'est déjà génial. Hein. Mais c'est bien, hein, non, franchement c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et parce qu'il faut également au début se faire reconnaître par les gens. Et si on faisait que du tirage au sort, les gens ils comprendraient plus rien, quoi. Alors... Je l'ai fait en 2014 hein, sur Montrouge. On a fait une liste qui n'a pas abouti.
Alors, dernière question peut-être pour cette émission qui nous a permis de voir un petit peu ce qui se passe sur Montrouge, mais au-delà des questions qui se posent par rapport à ces assemblées locales participatives. Est-ce qu'il y a aujourd'hui sur Montrouge ou sur d'autres communes où il y a ce genre de collectif, est-ce qu'il y a des tentatives de récupération de ces collectifs par des partis politiques? Est-ce que c'est des choses qu'on constate aujourd'hui ou pas?
Généralement, je peux pas te parler. Moi, je peux te parler d'une femme qui avait fait une liste.
Non, mais à partir d'un exemple que tu connais.
Ouais, voilà. À Bagnolet, elle avait lancé. Elle nous en a parlé lors de la journée par la belle démocratie. Elle avait lancé une liste participative, ouais, et en dehors des partis, mais effectivement entre les deux tours ça a été compliqué parce que ils ont cherché à bien sûr à mettre la main dessus, normal, oui. Pour eux, ouais. Alors est-ce que en amont il y en a d'autres qui vont le faire? Je pense pas parce que c'est compliqué pour eux. Hein. Si les fonctionnements sont bien mis en place, après si les fonctionnements sont un peu moyens, il est clair que certains élus savent que par exemple dans leur parti il y a déjà une tête de liste, deux trois personnes en tête de liste, donc ils seront pas élus. Donc eux peuvent très bien essayer effectivement d'aller dans un collectif, ouais, pour voilà, pour
essayer prendre la main. De faire leur nid un petit peu quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ben, on l'a vu, par exemple, on a vu des gens qui migraient d'un parti à un autre parce que l'autre parti commençait à naître et que ils négociaient même de leur réputation d'un autre parti, ils négociaient déjà des postes en changeant de parti, vous voyez.
Oui, oui.
Donc, c'est possible, hein, vraiment. Moi, je me méfie des politiques, franchement. Hein, c'est ouais. Toute personne qui veut le pouvoir. C'est, voilà, moi en tant que coordinateur de co-coordinateur de cette, moi je veux absolument pas, hein. je considère que ça serait déjà un conflit d'intérêt. Après, ouais, faut voir, hein, si la forme et le tirage au sort et que ça tombe sur moi, je sais pas, je me demande même si voilà, si je m'engagerais pas à refuser, je sais pas, mais c'est limite, hein.
Alors pour conclure cette émission, dernière question un peu pratique, on a vu des outils, tu as donné des noms de sites internet, est-ce que tu aurais un livre ou un guide qui te viendrait en tête pour pouvoir permettre aux auditeurs, auditrices de s'intéresser, de rentrer dans ces questions, on a vu quand même assez complexes puisque tout est imbriqué.
Oula, écoute, je le conseille pas parce que c'est long, mais je le nomme quand même. La démocratie athénienne de Morgans H. Hansen, H-A-N-S-E-N. C'est un petit pavé de je sais plus de 300 pages, un truc comme ça, où on parle de fonctionnement. Donc, mais c'est surtout moi, c'est surtout les vidéos, c'est surtout YouTube. Les premières explications de la démocratie athénienne de d'Étienne Chouard, par exemple, sur un tableau comme ça, où il montre des fonctionnements, c'est aller voir ce que c'est qu'un facilitateur, ce que c'est, tu parlais de la gestion de conflits, aller chercher des ressources, notamment sur le Trello qu'on a mis en ligne, notamment sur noscommunes.fr, notamment ailleurs, aller chercher des mots, des fonctionnements, des méthodes, ouais.
Voilà, en tout cas, ben, Philippe Pont, je te remercie d'avoir passé autant de temps
merci
avec nous sur Fréquencier pour nous parler de cette assemblée locale permanente pour Montrouge et puis aussi de toutes ces questions autour de la démocratie locale et participative pour vivre dans sa commune, dans son village, dans sa ville, soit tous les jours ou soit pourquoi pas en vue des élections de 2020. En tout cas, je te remercie.
Merci beaucoup à vous et bravo pour votre émission qui, sur ce domaine-là, c'est très 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 bien.
Et puis, à bientôt peut-être.
À bientôt, avec plaisir. Au revoir.
Allez, au revoir.